ils vont rester en poste, oui, mais il veut prolonger les mandats d'au moins deux de ses alliés de longue date pour des contrats qui venaient à échéance juste après la prochaine élection. Donc, il veut qu'ils conservent leur place dans la haute fonction publique malgré un éventuel changement de gouvernement. Et ça, ça va se faire et on en discutera. Mark Carney a discuté avec Donald Trump, donc d'économie, d'évolution de la situation au Moyen-Orient et des relations commerciales entre les deux pays. Ils ont convenu de rester en contact étroit. Ça ne veut pas dire que ça va bien se passer, mais ils veulent se jaser. C'est un peu ça. Et c'était la première conversation téléphonique directe entre les deux depuis octobre. Je vous rappelle, on est en mars. Autre nouvelle qui a fracassé peut-être nos cœurs, qui nous a vraiment fait mal en fin de semaine, que vous ayez des enfants ou pas, puis c'est le cas d'une auditrice qui a commenté tout ça pendant la pause, exactement de la même manière que je l'ai vu. C'est tellement triste, la nouvelle de l'accident mortel. L'accident d'autobus en fin de semaine à Sainte-Rose-de-Watford, c'était samedi, il faisait beau. On avait un café qu'on apprenait qu'il y avait un accident important. Le constat de tout ça, c'est 4 blessés graves, 10 blessés mineurs et un décès. Celui de Xavier Landry Rousseau, 13 ans, qui a perdu la vie dans cette sortie de route-là. Il faisait partie d'un groupe de cadets. On était dans l'autobus jaune pour aller triper, pour aller dans une compétition de tir à air comprimé. Probablement le samedi que bien des jeunes attendaient quand tu es dans les cadets. Et tout de suite, je me suis dit, bien voyons, c'est des jeunes qui se rendaient où? C'était quoi l'activité qui les faisait triper dans laquelle ils allaient participer un samedi? Puis Marianne nous a écrit, j'en pleure ce matin de cette nouvelle-là, je connais même pas. Quand tu penses que tes enfants sont en sécurité dans l'autobus, aller faire un super beau trip quand tu es jeune, un super beau trip à vivre la fin de semaine, puis finalement, c'est un drame. On pense à la famille, aux proches, aux jeunes dans l'autobus. Ça vient saisir un peu tout le monde. Puis c'est un segment que vous aimez beaucoup à l'émission, c'est celui de l'open mic. On va pas passer à côté. Puis on va aller parler à Paul Lévesque, qui est experte en comportement humain.
À Boulevard, il y a un moment où on prend le temps d'écouter, le temps de comprendre. C'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Audrey n'est pas là, Max n'est pas là, vous le savez, mais il n'y a rien qui va nous empêcher de perpétuer la bonne nouvelle et la bonne habitude qu'ils ont, soit d'aller dans un contexte plus humain. À 11h, c'est ça, c'est l'open mic. Et pour ce faire, je viens de vous la présenter, c'est Paul Lévesque. Bonjour, Paul.
Ben bonjour, bon matin, bon lundi. Heureuse d'être avec vous.
Très heureux aussi de t'avoir au bout du fil aujourd'hui. Bon, on a pensé à toi parce qu'on s'est dit... Il y a plein de choses qui se passent dans l'actualité ces temps-ci. Il y a plein de choses qui viennent nous faire mal. Puis, c'est pas toujours possible d'avoir le genre de paravent, de parapluie pour se protéger de ça. En même temps, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. On veut pas être saut puis être inconscient de ce qui nous arrive. Tu sais, je veux dire, même Téhéran était rendu à nos pompes à essence. Là, à Beauport, la semaine passée, on a manqué d'essence parce que les conflits au Moyen-Orient résonnent ici. Le prix du baril qui est en explosion, il a encore monté aujourd'hui. On est rendu à 120 $ et même plus dans les dernières heures en termes de barils de pétrole, ce qui fait en sorte que ça monte les prix partout. Le détroit d'Ormuz au niveau commercial est fermé. On a des bombardements. Les hôtels sont visés au Liban. Il y a des gens, des Canadiens, des Québécois qui sont pris dans le monde. On a cette nouvelle-là en Beauce. C'est assez fracassant, la nouvelle, comment elle peut venir nous chercher. Paul, si je me concentre sur la tragédie en Beauce pour notre première conversation... Oui. Tu peux-tu nous dire pourquoi c'est important de débriefer un traumatisme, que ce soit direct, indirect, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, pourquoi c'est important d'en parler?
Parce que mettre des mots, ça nous aide à se libérer. Quand il arrive un événement aussi majeur, c'est un événement qu'on s'approprie. Hein? Quand il arrive quelque chose d'aussi grandiose au niveau du heurt émotif, c'est qu'on se l'approprie. Tout à coup, on se met à penser à nos enfants. Tout à coup, on appelle ça de l'empathie sociale. On se met à penser si ça nous arrivait. Puis, tu sais, comme parents, là, la bête noire des autobus, ça nous habite. On dirait tout le temps que, tu sais, ils sont pas protégés, il n'y a pas de ceinture. Puis, ça frappe encore plus parce que c'est des jeunes. Puis, tu l'as dit, ils s'en allaient dans un contexte de bonheur, etc. Mais ça nous ramène souvent à nous. Hein. Ça nous ramène. Puis, on parle toujours de l'onde de choc. On parle de la loi du 48 heures. Le premier 48 heures, c'est l'onde de choc. On en parle. On se l'approprie. Hein? On pleure, on est en colère, on se demande pourquoi, on veut des détails. C'est pas du voyeurisme, hein? C'est de l'empathie sociale.
Fait Fait que de prendre part à cette tragédie-là, tout le monde ensemble, que ce soit dans notre salon ce matin quand on jase, c'est de l'empathie sociale. Mais ça, ça peut être bon parce que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé en me disant pourquoi ça vient me chercher autant puis comment est-ce que je peux faire pour me réconforter là-dedans, ça a été de dire hey, oublie pas de dire aux gens que t'aimes que t'es aimes. Hey, oublie pas de profiter de chaque seconde de ta vie, d'être dans l'espace, dans le moment présent. Puis en même temps, je me dis oh, j'ai bien beau dire ça puis je vais le dire à la radio. Je me ramène toujours aux parents puis je me dis s'ils entendent ça, je leur fais-tu plus mal?
Ben en fait, ce qu'on dit, c'est moi, je pense que tout ce qui arrive dans la vie doit nous amener à réfléchir, pas à rester stoïque dans nos pensées et développer de l'anxiété, mais se mettre à réfléchir, et c'est des occasions pour prendre conscience. Prendre conscience que nous, on a peut-être la chance encore d'avoir du monde qu'on aime autour et qui sont précieux, parce qu'on vient ensemble de visualiser qu'une perte peut être rapide. Tu sais, on le sait tous, Pascal, hein, qu'on est à l'aéroport, puis qu'on va tous prendre l'avion un jour pour le grand départ. Mais on y pense pas tous les jours parce qu'on virerait fou. Oui. Mais ces situations-là nous ramènent à l'ordre sur le deuil, sur la perte, sur la fragilité de la vie. Et ça nous ramène, nous, à prendre conscience de « Hey, c'est bien fragile tout ça. » Un samedi matin, tout peut basculer dans la vie de gens qui ne s'y attendaient pas.
Ouais, puis je pense que ça, c'est le plus tragique, puis c'est là où que ça vient de nous saisir. Des fois, ça peut être difficile d'aller en jaser, de débriefer. Moi, je pense à ceux qui travaillent dans les services d'urgence, hein, qui, bon, de plus en plus, on est un peu ferré pour en jaser. On a décidé d'avoir des travailleurs sociaux qui s'en vont dans les casernes, dans les centres de police et tout ça, suite à des événements difficiles. Mais t'as pas besoin d'un super gros traumatisme non plus, des fois, pour être shaké de quelque chose. Paul, parler, c'est pas facile pour tout le monde.
Non.
As-tu des outils pour ceux qui ont bien de la misère puis qui ne réalisent même pas qu'ils auraient dû en parler avant que les dommages collatéraux s'accumulent?
Ben, je te dirais qu'on a parfois une mauvaise idéologie de parler. On pense que, moi je dirais plus communiquer. On va transférer ça parce que tu as raison, parler c'est être capable d'avoir une volatilité au niveau verbal. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Mais moi, j'accentuerais ça d'abord sur communiquer. Communiquer l'émotion qui t'habite. Puis peut-être que ce qui t'habite, c'est, peu importe, là, on parle de cette nouvelle-là, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Si t'as de la peine, peut-être que communiquer ta peine, c'est prendre quelqu'un dans tes bras. T'es en train de communiquer quelque chose.
T'sais. C'est pas toujours obligé d'être en mots.
Pas obligé. Il y a des gens qui vont utiliser l'écriture, qui sont des mots plus, mais pas au niveau de la communication verbale. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter pour apaiser. Tu sais, des fois, là, il y a des gens qui me disent pas qu'ils ne veulent pas parler. Mais oui, mais c'est pas de la torture faire parler l'autre. On n'est pas obligé de prendre un tapis de fakir. Mais ce que ça veut dire, c'est être près de quelqu'un, près de soi-même. Ça veut dire de quoi j'ai besoin. Peut-être que pour communiquer ma détresse, j'ai juste besoin que quelqu'un me prenne la main et me dise qu'il me comprend. C'est communiquer veut dire s'ouvrir à soi et s'ouvrir à l'autre. Et ce n'est pas nécessairement par des mots fluides ou des mots qui marquent les émotions. C'est sûr que c'est l'idéal. Mais des fois, communiquer, c'est juste... Ça nous est peut-être, toi, arrivé, Pascal, puis arrivé aux éditeurs, de ne pas avoir de mots. Les mots restent pris dans la gorge. On voudrait donc. Ben, la première étape, c'est peut-être d'admettre qu'ils sont pris dans la gorge. Communiquer, ça peut peut-être vouloir dire « Je voudrais parler, puis je suis pas capable. » Déjà, tu es en train d'exprimer quelque chose.
Déjà, tu avances là-dedans. Paul, déjà,
oui.
Quelqu'un nous écrit, puis je trouve ça vraiment intéressant comme vision, mais dans n'importe quelle tragédie ou dans... Des fois, il y a des erreurs humaines qui sont commises et ça amène à quelque chose qui va changer le cours de notre vie au niveau négatif, qui va nous brasser à l'intérieur. Tu sais, le fait de ressentir une émotion négative, par exemple, quelqu'un qui cause un accident pour cellulaire au volant, qui fait une mauvaise manœuvre, qui peut-être n'a pas réfléchi avant un comportement ou... Tu sais, des fois, on en veut à cette personne-là, puis c'est une réaction humaine du début. Est-ce qu'on est haineux pour autant? Est-ce qu'on doit se taper sa tête parce qu'on vit cette colère-là, mais on doit sûrement pas devoir rester dedans non plus?
Moi, je pense que réprimer, c'est la pire affaire à faire, là. parce qu'il t'empoisonne, d'accepter qu'elle est là. Moi, je pense que la première chose, c'est de dire, elle est là. Je l'ai-tu voulu? Non. Ça se peut que ça soit de la colère, ça se peut que ça soit de l'agressivité, ça se peut que ça soit le désir de vengeance. La première chose, c'est de le reconnaître. Dès que tu le reconnais, tu dégonfles le cœur. Tu sais, je suis en colère, j'ai envie de me venger, etc. Bon, maintenant, je fais quoi avec ça? Ça, c'est la deuxième chose. Donc, c'est pas de la refouler, c'est de la mettre en lumière. Elle est là. Bon, c'est pas ce que je veux, mais elle est là. Maintenant, j'en fais quoi? Comment je fais pour que ça soit constructif? Et tu sais, les gens, ils parlent beaucoup de pardon, hein? Mais, pardon, c'est pas judéo-chrétien, là. Pardon, c'est d'abord se pardonner à soi-même de ressentir ce que je ressens. C'est d'accueillir ce que je ressens. C'est là, là. Maintenant, c'est de se poser la question, comment je l'utilise pour que ça soit pas contre moi et pas contre les autres. Mm-hmm. Tu sais, la vengeance, c'est du poison que tu prends toi-même en pensant que l'autre va s'empoisonner. Fait que c'est légitime de ressentir ce qu'on ressent. Mais c'est surtout se demander ce que je vais en faire pour pas continuer à perpétuer la destruction.
OK. Donc, l'identifier puis être capable de voir ça sera quoi ma prochaine action, pas dans la violence, bien sûr, pas dans la haine et tout ça. Comment est-ce que
je vais... L'accepter, oui. L'accepter. Accepter que ça se peut que je sois en colère puis que j'aille pas du tout... Tu sais, moi, dans ma pratique, là, j'en rencontre des gens qui ont vécu du traumatisme majeur puis qui ont perdu un enfant par négligence de quelqu'un en boisson ou des choses comme ça, là, tu sais.
Mais c'est à ça que je pensais aussi, tu sais. Il y a l'émission Shrinking en ce moment qui est disponible. C'est une série vraiment intéressante, mais c'est un psychologue pour... Sa femme est décédée sous le volant de quelqu'un qui était en état d'ivresse, là. Puis, oui. À un moment donné, ils deviennent amis. Ils sont capables de jaser puis ils cuvent cette peine-là parce que la personne qui a commis l'erreur s'en veut puis il pense à chaque jour. Puis la personne qui a perdu sa femme en veut à cet homme-là puis il pense à chaque jour. Puis il trouve le point commun dans le fait que les deux essaient de surmonter cette peine-là, tu sais.
C'est-tu bon? Non, mais je l'écoute moi aussi, là. C'est incroyable la grande leçon de vie. C'est pour ça que je te dis, la première chose, c'est de se pardonner à soi-même. Parce que souvent, on n'accepte pas ce qu'on ressent, donc j'accepte ce que je ressens, puis je me pardonne de ressentir ça, puis ça va m'aider à aller plus loin. Puis je pense que la colère, c'est sain. Par contre, le ressentiment qui s'installe dans le moyen et long terme ne fait que détruire. Fait que, tu sais, on passe vite à une autre vitesse. Je trouve qu'on vit dans une société aussi où on se donne pas le temps. Puis ça, c'est la... Le deuxième secret, ça a l'air cucu de dire « donne-toi le temps », mais c'est parce que l'estomac apprend un certain temps à digérer. Ben, dans la vie, c'est ça aussi. Des fois, la digestion est lente, puis des fois, elle est rapide. Mais juste, des fois, les gens me consultent pour un deuil, puis ils me disent « oh, c'est normal, je pleure encore ces trois mois ». Je dis « hey, why not, coconut, on peut-tu, s'il te plaît, laisser le temps aux émotions de vivre puis d'évoluer ?» Parce que tout doit être fait pour hier, hein.
Ouais.
Puis c'est ça le danger avec l'accident qui est arrivé aussi, tu sais. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant 48 heures, puis là, on pense à nos vies, puis on se remet en question. Puis pouf, après ça, la vie reprend son cours, puis on n'a pas tenu nos leçons. On a tiré des leçons qu'on n'a pas conservées pour que la vie reprend son cours. Donc, on vit dans une société d'amour jetable, on vit dans une société où on est toujours en train d'avoir un sentiment d'urgence qui nous empêche de laisser les émotions se vivre, s'accepter, puis prendre le bord d'un autre chemin.
C'est intéressant ça. On pourrait en faire un sujet complet même. Mais ironiquement, et très... C'est très intéressant, ça, pour l'évêque. Tu es experte en comportement humain, puis tu nous proposais aussi de se poser la question, est-ce que l'actualité nous mine de façon consciente ou inconsciente? Est-ce qu'elle vient, puis tu sais, aujourd'hui, il fait gris, on revient de la relâche, on recommence à travailler pour certains. C'est une journée pédagogique. Il a fallu trouver quelqu'un à s'occuper des enfants une journée de plus. T'sais, des fois, c'est un casse-tête. Puis là, on entend ces nouvelles-là, puis on voit le prix de l'essence qui monte dans une période inflationniste difficile. Puis là, j'en ajoute, gang, là, on lâche pas, là. Conflit au Moyen-Orient, il y a des gens qui sont pariés à l'extérieur. Tu peux encore voyager? Où est-ce que le monde s'en va? Puis, tu nous proposes, ironiquement, d'aussi faire de l'acouphène émotive. Ça veut dire quoi, ça?
Bien, tu sais, c'est un terme qui représente bien le mal physique. Hein? L'acouphène, c'est le le petit maudit son de marde dans l'oreille qui lâche pas puis qui te rend fou, là. L'acouphène du cœur, c'est cette espèce de son omniprésent qui est lancé dans nos vies par la société, par toutes sortes d'affaires, où on a toujours comme l'arrière-plan que ça va mal. Il y a toujours quelque chose qui va mal. C'est sûr que on est très exposé parce qu'on est informé beaucoup, hein. En étant exposé, c'est comme si chaque jour on se levait le matin avec l'impression que c'est la fin du monde, la fin d'un monde, la fin de quelque chose. Qu'on est toujours comme en danger de quelque chose. Et ça, ça crée de l'anxiété. Et l'acouphène du cœur pourrait ressembler à de l'anxiété, la peur, la pression, l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, que de toute façon, c'est fini. Tu sais, quand j'entends que les jeunes, parce que les jeunes qui font des enfants, les vieux ne sont pas capables, mais quand les jeunes disent « je ne fais plus d'enfants parce que c'est un monde pourri », ben on parle de désespoir. Et le désespoir, c'est cette espèce d'acouphène émotive qui sonne tout le temps comme un son qui fait du mal, qui nous dérange, qui nous empêche d'être dans le bien-être, dans l'espoir, dans... Tu sais, aujourd'hui, c'est comme ça, ce que ça sera demain, je ne sais pas, mais une chose que je suis sûre, c'est que la vie, c'est 10% de ce qui arrive et 90% de ce que j'en fais. Et pour être capable d'en faire quelque chose de constructif, il faut avoir de l'espoir, pas être fleur bleue. L'espoir, c'est de dire, on monte la première marche, je vois pas le reste de l'escalier, mais la prochaine marche va m'aider à voir la numéro 2, la 2, la 3. Fait que soyons pas dans le fatalisme, soyons dans le réalisme, mais avec l'espoir. Et je crois que c'est ça qui va venir nous aider à conduire à clutch. Le bon point précis en étant dans le réalisme, mais en étant dans la capacité de dire, moi, une journée à la fois, je peux changer des choses en même.
Mais ça, Paul, c'est intéressant. Puis des fois, c'est pas toujours facile à faire parce que je te donne l'exemple de notre métier, nous, commentateurs de l'actualité. On dirait qu'on a eu l'obligation dans notre vie, comme plein de gens qui travaillent peut-être au sein de la DPJ, qui travaillent auprès des enfants, qui vivent des choses pas faciles, les policiers. Puis là, nommez-la, votre carrière qui vous prend beaucoup mentalement au 88-971-101 et vous avez dû faire un genre de barrage ou barrière émotionnelle parce que ce serait trop difficile au quotidien. T'sais, on a eu cet exercice-là à faire, nous, en tant que commentateurs de l'actualité, pour pouvoir la suivre, la nouvelle, sans être KO à chaque jour. Puis dernièrement, j'asais avec un proche, puis je disais, hey, est arrivé telle affaire. Ça a été lors du premier week-end de bombardement avec l'Iran, ou l'ouverture un peu du conflit actuel. Puis j'ai dit, as-tu vu ce qui s'est passé, tout ça? Et la première réaction de cette personne-là, ça a été, oui, mais faut pas s'en faire, faut pas commencer à paniquer ou à stresser de ça. Puis là, je me dis, oh, est-ce que cette personne me transpose sa peur? Parce que clairement, moi, c'est un intérêt de voir ce qui se passe, puis de m'informer, puis de jaser avec cette personne-là. Mais automatiquement, la réponse a été « faut pas s'en faire, faut pas stresser ». Puis je me dis, elle est où la limite entre être dans le déni de ce qui se passe pour se protéger, mais aussi prendre compte de ce qui se passe pour être au courant?
Bien, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis effectivement, si c'était facile, on ne parlerait pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a des pensées refuge, des pensées apaisantes et rassurantes, et il y a des pensées catastrophes. Puis il y a quelque chose entre les deux. Quand une personne te dit « c'est loin de nous », par exemple, « ça nous touche pas », etc., je crois que c'est une personne qui va choisir une pensée rassurante, une pensée apaisante, une pensée qui l'aide à ne pas être dans un scénario catastrophe. Et c'est là qu'il faut aller. Donc, on peut prendre conscience que la guerre existe, que c'est horrible, mais se ramener à notre pouvoir personnel. Qu'est-ce que moi, je peux, ici et maintenant, faire pour être capable d'avoir une qualité de vie qui me permet de ne pas être continuellement dans des scénarios catastrophes? Tu sais, je te rejoins, il y a des métiers qui sont à haut risque, là, plus que d'autres. Il y a des personnes qui sont plus à haut risque à cause de leur anxiété, de leur personnalité. Et moi, je me prends comme exemple, là, je veux dire, je suis souvent dans des scénarios plus catastrophes parce que les gens me consultent parce que leur vie peut être difficile. Oui. Je fais des packs de non-suicide, j'accueille des gens qui ont vécu des choses très difficiles, etc. Puis, je le pratique. Parce que, des fois, les gens me disent pas comment tu fais pour mettre ton bouton à off. je le mets pas. Mais être honnête, là, je le mets pas. Je suis pas capable de le mettre. Je suis capable d'éplucher une patate en ayant fait un pack de non-suicide et en me disant, oh, la vie est belle. Mais ce que je me dis, j'essaie d'aller dans une pensée rassurante en me disant, j'ai posé un geste qui fait la différence. Est-ce que j'ai fait ce que je pouvais dans cette situation-là? Donc, une pensée réconfortante. Puis, il y a l'exposition aussi, Pascal. Hein? Si tu es exposé quotidiennement, je prends un ambulancier, je prends toi qui es exposé quotidiennement à l'actualité puis qui t'en nourrit. Comment on fait pour ne pas s'y perdre? Comment on fait pour ne pas s'exposer dans un environnement qui va nous happer? Donc, il faut s'exposer dans l'équilibre. Si je m'expose devant l'horreur, je dois m'exposer devant ce qui m'apaise et me donne de l'énergie positive.
Aller chercher l'équilibre, c'est vrai qu'on oublie ça des fois.
Oui.
Fait que ça permet peut-être de ne pas être dans le déni, d'être au courant, mais de aussi s'apaiser.
Oui, c'est des vases communicants. Donc, tu sais, moi, je suis une musicienne, par exemple. La musique vient me donner ce vase communicant-là, tu sais. Puis, être capable de ne pas être exposé qu'au négatif. Puis, tu sais, rappelle-toi, durant la pandémie, les gens qui ont basculé beaucoup émotivement, c'est des gens qui sont exposés beaucoup à l'horreur. Ça ne veut pas dire qu'il fallait fermer tout, parce qu'on veut être informé. Ce que ça veut dire, c'est que si tu t'exposes 24 heures sur 24, tu vas assurément générer de l'anxiété, c'est sûr, parce que ton cerveau est nourri que de junk food. C'est nourri juste. C'est le fun de manger du McDo. Si tu en manges tous les jours, tu vas te rendre malade.
Mm-hmm. Oui, tu as raison. Ça, c'est sûr que c'est une évidence. Là.
Mais... c'est un peu ça.
Oui. Oui. Mais on retient l'équilibre, puis c'est pas toujours facile. Fait qu'en l'ayant en tête encore une fois aujourd'hui, ça va peut-être pouvoir aider avec tout ce qui se passe en ce moment. Puis il y a beaucoup de commentaires. Tu sais, quelqu'un qui dit je pourrais être presque d'accord avec Paul, je suis à ça de l'être si jamais le système ne viendrait pas aussi prendre 80% de mon temps, mon argent. Tu sais, c'est une critique politique à ce niveau-là. Quelqu'un d'autre qui dit la colère, c'est un ressentiment qui détruit souvent, plus souvent que l'événement même qui nous tracasse. Je trouve ça intéressant. Quelqu'un d'autre qui dit par rapport à l'incident d'autobus du côté de la Beauce. Moi, j'essaie d'aller chercher l'équilibre aujourd'hui. Je trouve ça un petit peu plus difficile parce que c'est tellement près de nous qu'il va falloir que je travaille encore plus pour essayer de m'en éloigner en étant au courant, bien sûr. Puis la personne, elle a une belle pensée pour les parents qui seront beaucoup, beaucoup aidés, beaucoup chapeautés, beaucoup aimés dans les prochains jours, mais qu'on risque aussi, pas d'oublier, mais vu que la routine va recommencer, peut-être moins mettre d'attention là-dedans et qu'eux devront vivre le deuil un peu plus seul par la suite. Là.
Oui, mais il y a beaucoup de choses. Hein. La première chose que je veux dire, moi, je mettrais, c'est que la colère, c'est sain, l'agressivité ne l'est pas.
Bonne différence.
La colère, c'est de la drive. Tu comprends? Il y a une différence. Être en colère, ça nous donne de la drive. Si ça se transforme en agressivité, c'est là que c'est négatif.
Très intéressant.
C'est juste comme commentaire.
Oui.
Puis, juste dire que, puis je reviens avec ce que j'ai dit tantôt, le temps peut jouer pour ou contre nous. Ce que ça veut dire, c'est le temps nous permet de s'apaiser. Donnons-nous le temps d'accueillir ce qui se passe autour de nous, puis de le digérer. Mais, le temps peut aussi jouer contre nous, c'est-à-dire que si j'oublie trop vite, les leçons que j'aurais apprises ne restent pas. Puis, tu sais, d'être conscient que, tu sais, c'est ma job, là. On peut pas me vendre l'idée que ça va bien, là. C'est-à-dire, les gens ont de la difficulté à faire leur épicerie pour beaucoup, sont beaucoup dans la restriction, donc beaucoup plus de difficultés à être dans on se paye la traite, tu comprends? Je le sais, je suis là-dedans, tu comprends? Je travaille avec les jeunes d'arrivée, je travaille avec la prévention du suicide. Mais ce que je veux dire, c'est la seule façon de ne pas se laisser happer par ce qui arrive, c'est la créativité. À toutes les fois où je suis dans la marde jusqu'au cou, entre guillemets, j'ai remarqué que les humains, après avoir passé cette phase de tout m'arrive, puis ça n'a pas de bon sens, deviennent soit anxieux ou soit créatifs. Et créatif veut dire la recherche de solutions, et tu remarqueras que quand on vit des situations difficiles, on crée des éléments qu'on n'aurait pas créés autrement. On découvre des forces qu'on ne se connaissait pas. On découvre des éléments de solutions qu'on n'aurait jamais utilisés autrement. On se donne parfois des des permissions qu'on ne se serait pas donné. Mais au départ, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais avec ça? On peut rester longtemps dans le fatalisme, dire c'est comme ça, mon grand-père t'a de même, mon pote t'a de même.
Ça va être de même. Ouais.
Tu comprends? Mais on peut aussi dire, une fois qu'on a reconnu que ça, c'était extrêmement difficile, comment j'ai fait? Sais-tu à quoi je pense dans ce temps-là? Puis, tu sais, je suis loin d'être fleur bleue. Mais le film La vie est belle.
Oui. La façon dont le père tourne ça au jeu. Le ouais. fait d'être pris dans un camp de concentration pendant oui. la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Un des meilleurs films qui a été fait, là.
Oui. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est encore un camp de concentration. Mais ils utilisent les événements pour leur donner, au fond, c'est de la créativité. Oui. On crée un autre système.
Mais c'est un c'est... fort exemple, hein, parce que le jeune s'en sort beaucoup mieux mentalement puis est capable oui. de passer à travers. C'est vraiment intéressant, les conseils que tu nous donnes ce matin, Paul Lévesque. On doit te laisser... Paul Lévesque, expert du comportement humain, on retient qu'avec tout ce qui se passe, c'est important de débriefer un traumatisme, mais c'est pas toujours par les mots. Si vous avez manqué le début de la chronique, vous allez pouvoir le reprendre sur le site de BLVD tantôt, blvd.fm, dans la section Open Mic. Mais l'actualité aussi, si elle vous mine de façon inconsciente ou consciente, et l'acouphène émotive, tu sais, le genre de cri que vous entendez tout le temps dans votre cœur parce que vous n'êtes pas bien, vous demandez ce qui se passe, l'important, c'est de pas figer, c'est d'être créatif. Et surtout d'aller chercher un équilibre. Ça, c'est grossier comme vulgarisation de ce dont on vient parler, mais on peut reprendre la conversation un peu plus tard. Merci, oui. Paul Lévesque.
Et en dernier, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. De l'aide, pas nécessairement d'un professionnel. Ça peut être ta voisine, ta mère, n'importe qui. Tu sais, se déposer auprès de quelqu'un, c'est peut-être là le secret aussi.
Ça fait du bien. Merci, Paul.
Au plaisir, portez-vous bien.
À la prochaine. Pendant cette conversation-là, qui était très humaine avec la spécialiste en comportement humain, ben la bonne nouvelle, c'est qu'on a grimpé dans les degrés à Québec. On a atteint un petit 4 degrés. Il n'y aura pas ben de soleil. Peut-être alternance soleil-nuage cet après-midi. Mais pour cette semaine, c'est un peu un scénario qui est gris. Alors, on va aller trouver notre bonheur dans les petites choses. Et c'est un peu la thématique hein, de la chronique avec Paul Lévesque. Essayez aujourd'hui d'avoir comme mission de peut-être mettre un peu de créativité dans votre quotidien. Aller chercher quelque chose de différent à ajouter à votre journée, dans votre routine, puis certainement dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Cette tragédie-là en Beauce nous ramène, veut pas, à l'essentiel. On n'a pas le choix d'essayer de réconforter de cette manière-là. Quand on voit les drames que d'autres vivent et qu'on pourrait vivre aussi dans notre vie, c'est absolument difficile à lire encore une fois ce matin. On est de tout cœur avec ceux qui sont éplorés par le dossier. De l'autre côté de la pause, dans le point de Max, c'est avec Victor Henriquez qu'on s'entretient. Un analyste politique, entre autres, les nouvelles règles en immigration. Bien, Ottawa a serré la vis à des dizaines de milliers de demandeurs d'asile. On va aller parler des nominations partisanes de François Legault. Un sujet dont on a peu parlé aujourd'hui, qui m'intéresse beaucoup parce que le maire Vaillancourt hein, va recevoir un chèque de Laval pour payer ses impôts dus sur de l'argent volé. Ouais. On va en jaser avec Victor Henriquez. Restez là dans le Point de Max.
Le Point de Max.